Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Il est 6h avant minuit, jeudi 28 mai 2026. Vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab et vous avez bien raison. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, mais je pose ça là. Il paraît qu'une femme de plus de 60 ans a 4 fois moins de chances de parler dans un film qu'un animal parlant. T'as pas vu ça, Léonore ?
Non, et ça me choque
le
un peu.
Le regard, oui, moi aussi ça me choque. C'est en tout cas le cas dans les films du box-office de 2023, 2024 et 2025. C'est une étude anti-âgisme menée au Royaume-Uni par un organisme à but non lucratif, le Centre for Aging Better, qui l'a révélé. On le savait déjà en vérité, mais cette campagne le prouve par l'absurde. Les femmes âgées sont invisibilisées au cinéma. Pourtant, les talents ne manquent pas. Je ne sais pas si vous en avez en tête autour de la table, mais par exemple, il y a Demi Moore, Jamie Lee Curtis, Sigourney Weaver, Jodie Foster, Michelle Yeoh, Sandra Bullock, enfin tout ça. C'est possible en vrai. Il y a encore du taf. Tout de suite, le flash de Léonore.
Une membre de la fraction Armée Rouge condamnée à 13 ans de prison, l'Allemande Daniela Klett a fait partie du groupe terroriste d'extrême gauche, la RAF. Arrêtée en février 2024, après 30 ans de cavale, elle est jugée responsable d'une série de braquages à main armée commis entre 1999 et 2016. Son procès, ouvert en mars 2025, était placé sous haute sécurité. La fraction Armée Rouge est officiellement dissoute en 1998. Elle faisait partie de ce qu'on appelle la troisième génération de la RAF. Les avocats de la condamnée ont annoncé faire appel. Daniela Klett est également poursuivie dans 2 autres affaires, sa possible participation aux crimes commis par la RAF avant sa dissolution et sa participation présumée à 3 attentats menés pour des raisons politiques entre 1990 et 1993. Temu, condamné à 200 millions d'euros d'amende. La plateforme commerciale chinoise vient d'être jugée par la Commission européenne. Le site a été reconnu coupable d'avoir vendu des produits illégaux et non conformes, comme des jouets pour enfants dangereux. D'après la Commission européenne, Temu n'a pas respecté le Digital Services Act, pardon pour l'accent, ou DSA, imposé aux grandes plateformes en ligne par le règlement européen et garantissant la protection des consommateurs. La maison mère de Temu a fait 53 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, l'amende ne devrait donc pas tellement les désorienter. Il était temps. Le code noir est enfin abrogé. 178 ans après l'abolition de l'esclavage, l'Assemblée nationale a réalisé ce matin un vote symbolique. À l'unanimité, les députés ont acté la suppression de l'ensemble des textes ayant réglementé l'esclavage dans les colonies françaises. Emmanuel Macron a pris la parole jeudi dernier, estimant que le maintien dans le droit de ces textes, même sans effet juridique, constitue une trahison à ce qu'est la République. Un article a également été voté. Il prévoit que le gouvernement remette un rapport sur le droit colonial et ses effets à long terme. Il exige également de revoir la place accordée à l'histoire de l'esclavage dans les programmes scolaires. La campagne présidentielle n'est pas encore lancée et pourtant la course a déjà commencé. Pour les candidats et candidates à l'élection présidentielle, c'est dans les librairies que cela se joue et Aïza nous en parle.
Jordan Bardella, Raphaël Glucksmann, Marine Tondelier ou encore Elisabeth Borne. Depuis plus d'un an, les publications d'ouvrages n'arrêtent pas pour les responsables politiques. Sur ses réseaux sociaux, Gabriel Attal, ancien Premier ministre, se montre en séance de dédicace avec son livre « En homme libre ». Pour lui comme pour d'autres, c'est aussi l'occasion de consolider sa base électorale. Et il faut croire que cela plaît. Pour le député Renaissance, c'est plus de 8000 exemplaires vendus en seulement un mois. Pour Jordan Bardella, président du Rassemblement National, son premier ouvrage « Ce que je cherche » paru en décembre 2024, s'est vendu à plus de 240 000 exemplaires. Le second, avec moins d'un an d'intervalle, « Ce que veulent les Français », s'est écoulé à plus de 173 000 exemplaires selon Fayard, sa maison d'édition. Et on parle de best-seller à partir de 100 000 exemplaires. Mais alors pourquoi sortent-ils et elles toutes et tous un livre? Sur France Info, le politologue Bruno Cotrez livre quelques analyses. « C'est du grand classique », affirme-t-il. « Notre vie politique française a cette particularité. » Les responsables politiques ont un rapport à l'écriture et au livre qui est important dans l'affirmation de leurs ambitions présidentielles. Publier un livre, cela veut dire que l'on réfléchit, que l'on s'est retiré avec soi-même devant sa table d'écriture pour s'extraire des flots roulants des interviews. Cela devient une case à cocher. En publiant un livre, on veut montrer une partie plus humaine et faire passer ses idées en se légitimant. Et ça, c'est important pour un homme ou une femme politique. Faire paraître un livre, c'est renvoyer une image très forte qui s'inscrit dans une longue lignée. Il y a toujours eu un lien entre les présidents de la République et la littérature. La majorité d'entre eux ont sorti leur biographie ou font la fameuse photo présidentielle dans la bibliothèque de l'Élysée. Après, cela ne veut pas forcément dire que le succès des livres se ressent dans les urnes. Rappelez-vous l'engouement autour du livre de Nicolas Sarkozy, Le journal d'un prisonnier, fin 2025.
Il faut ce qu'il faut quand il faut voir Sarko. Hein.
Vous êtes prête à tout pour le voir?
Ah oui, c'est mon idole.
Moi, je suis très contente qu'il soit sorti. Il n'a pas à être enfermé, il y a des gens qui font bien plus grave et qui sont en liberté.
Je veux surtout lire ce qu'il a écrit quand il était prisonnier politique.
Prisonnier politique?
Oui, quand il a été séquestré, prisonnier politique, oui.
Les prisonniers politiques, c'est dans des régimes autoritaires ou dictatoriaux?
Exactement, ce qu'on vit en ce moment.
Il avait écoulé plus de 100 000 exemplaires. Et pourtant, en 2016, lors de la primaire de droite, il avait été éliminé dès le premier tour. Alors pour la présidentielle de 2027, c'est important de le rappeler, les résultats dans le monde de l'édition ne permettent pas de savoir ce qui va se passer dans les urnes.
Merci Aïsa. Pour le moment, ils et elles sont déjà 20 candidats et candidates à la présidentielle, un possible nouveau chapitre dans la vie politique. Concernant le Rassemblement national, la décision de justice au sujet de l'inéligibilité de Marine Le Pen sera rendue le 7 juillet prochain. Samedi, c'est la finale de la Ligue des Champions et la France se tient prête. Laurent Nunez annonce 22 000 policiers et gendarmes mobilisés dans tout le pays, dont 8 000 dans la capitale. En parallèle du tournoi de Roland-Garros, la finale PSG-Arsenal risque de faire des débordements. Les joueurs de Luis Enrique se tiennent également prêts, le déplacement à Budapest approche à grands pas et les entraînements sont millimétrés. Un détail alerte tout de même tous les supporters, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé n'ont pas encore réintégré l'entraînement collectif, le match sera à retrouver à 18h en clair sur M6. L'ambiance n'est pas aussi festive du côté du club de handball Cesson Rennes. Les Irréductibles se sont inclinés hier soir face à Celsat, une des pires prestations de l'année à domicile alors que leurs adversaires jouaient le maintien. Avec un score de 31 à 37, l'entraîneur Sébastien Leriche n'a pas caché sa colère. Très lucide face à la situation, il a déclaré « Je n'ai pas d'explication, c'est un match où l'on est complètement à côté de nos pompes, il n'y a rien qui ait fonctionné ». Les vagues de chaleur liées au réchauffement climatique impactent fortement l'accès à l'eau bretonne. Pour mieux comprendre la situation démographique, nous nous sommes adressés à l'OEB, l'Observatoire de l'environnement de Bretagne. Pierre Darentière, chef de projet adaptation climat, et Timothée Besse, chef de projet sur la thématique de l'eau, nous ont expliqué tout ça.
L'idée, c'est de voir comment le cycle de l'eau va être modifié en Bretagne avec le changement climatique. Et donc là, on voit qu'il y a une grande, forte baisse de la ressource, notamment en été. Mais il faut savoir qu'en Bretagne, on avait la chance historiquement d'avoir une pluviométrie particulièrement importante comparée à d'autres régions, mais que la Bretagne est très hétérogène et le sud de la région fait beaucoup plus face à des sécheresses des sols régulièrement que la partie justement des monts d'Arrée qui est beaucoup plus arrosée. Par rapport à d'autres régions, en France, on a une vulnérabilité vraiment intrinsèque liée au fait qu'on a une géologie qui fait qu'on a des sous-sols qui stockent peu l'eau. En Bretagne, une nappe se vide assez rapidement, en quelques semaines ou à quelques mois, mais rarement plus. Ce qui fait que c'est pas parce qu'on va avoir un hiver très pluvieux qu'en été, on aura forcément une ressource disponible dans les sous-sols pour alimenter notamment, par exemple, en eau potable. Et donc 75% des réserves d'eau potable et sont des réserves de surface, donc dans des barrages. Ça, c'est vraiment assez propre à la région.
Il faut savoir aussi que comme la Bretagne, effectivement, a assez peu de ressources souterraines, elle est organisée déjà depuis longtemps pour partager l'eau à l'échelle régionale. Il y a beaucoup de réseaux d'eau potable qui permettent de se raccorder d'un territoire à l'autre, même d'un département à l'autre. Et c'est ce qui a permis en 2022 de maintenir un approvisionnement en eau potable partout sur la région. Mais on a bien vu qu'à ce moment-là, on a atteint aussi les limites de ce système de repartage de l'eau. Le fait que les débits baissent dans les rivières, par exemple, ça peut amener à des cours d'eau qui s'assèchent. Et donc les espèces qui y vivent se retrouvent en survie. Il y a des espèces de poissons qui migrent de l'aval de l'estuaire jusqu'à l'amont de la rivière, et qui peuvent se retrouver beaucoup plus bloqués par les multiples obstacles, les barrages et les petites chaussées de moulins qui du coup sont infranchissables lorsque les débits sont trop faibles. Donc ça impacte les cycles de vie des espèces de manière large. Ça peut aussi favoriser l'introduction d'espèces exotiques envahissantes qui se retrouvent bien plus adaptées à ces milieux sous stress.
Si le sujet vous intéresse, le Memento, la ressource en eau en Bretagne face au changement climatique, est disponible sur le site de l'OEB. Des Rennais et Rennaises prennent la troisième place du mégoton national. Hier, pendant 2 heures et sous la fournaise, 8 habitants et habitantes ont ramassé leurs déchets et les déchets et mégots du square Sarah Bernard et de ses alentours. Ils et elles ont collecté près de 4 kilos de résidus de cigarettes. Le mégoton se déroule du 23 au 30 mai. Il faut donc encore attendre un peu pour connaître le classement définitif de ces courageux Rennais. Rennaise. Le mégoton est organisé pour sensibiliser aux dangers écologiques. Un mégot de cigarette met environ 10 ans à se dégrader intégralement.
Un flash signé Léonore, merci à toi. Can we have a virgule, please?
Quelle heure est-il?
Merci. 6
heures. Minuit, pourquoi?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
L'interview ce soir, c'est avec Solène.
Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Lisa Miard, chargée de programmation du festival Festilol, vêtue d'un t-shirt jaune, et Maxime Guéot, humoriste rennais et son auberge. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Cette année, la Comédie de Rennes nous donne rendez-vous pour le festival de stand-up Festilol. Ça se passe le 2 juin, le 21 juillet et le 4 août. Pour commencer, qu'est-ce que c'est Festilol ?
Alors le Festilol, c'est un festival de stand-up qui est la continuité du Rennes Comedy Club qui s'est déroulé pendant toute la saison dans notre théâtre. À chaque édition, le public a pu voter pour son coup de cœur qui donc a été programmé pendant ce festival dans notre théâtre toujours.
Et donc Maxime Guéot sera présent. Quels autres humoristes prendront part au festival ?
Nous avons également Maxime Sandré et Benjo, des Nantais.
C'est donc une programmation 100% masculine. Pourquoi est-ce que c'est dur de trouver des femmes humoristes ?
Finalement, c'est une question de réalité quand nous contactons les boîtes de production ou les humoristes indépendants. Nous tentons un maximum de faire venir autant de femmes que d'hommes, mais c'est vrai que dans la réalité, c'est une difficulté qui se présente à nous.
Et comment est-ce qu'on organise un festival de stand-up ?
Bah finalement, il a donc commencé dès le Comedy Club, donc en fait sur une programmation, une sélection d'humoristes. On a souhaité pour cette édition le faire sur une échelle plutôt resserrée, une échelle plutôt du Grand Ouest, donc à Nantes et à Rennes. Et on en passe d'abord par une programmation et après finalement, bah, c'est les humoristes qui se défendent sur scène et le public qui adhère ou adhère moins. Et en l'occurrence, ils ont l'air d'avoir plutôt bien adhéré.
Et donc c'est le public qui décide par le biais des votes qui sera présent au festival. Pourquoi avoir fait le choix de fonctionner comme ça ?
Notre volonté était d'impliquer le public, qu'il puisse avoir concrètement son avis à donner pour la suite, pour le festival en l'occurrence. En plus, au moment donc, du Comedy Club, ils ont tendance à se sentir encore plus concernés et impliqués, à la fois dans le moment et aussi dans le futur. Et aussi, ça permet de faire un lien pour les humoristes eux-mêmes. S'ils ont été appréciés par des spectateurs, souvent ils viennent les voir après pendant le festival.
Et Maxime Guéot, ça fait 2 ans que vous jouez à Rennes et que vous développez votre spectacle Hors de moi, que vous jouerez mardi prochain, le 2 juin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, ça fait même un peu moins de 2 ans que je fais du stand-up. En fait, j'ai commencé, on va dire, en 2025, en septembre 2025. Et je me suis donné un défi d'écrire un texte tous les mois pendant 1 an. Un texte, c'est 8 minutes quand on va en comedy club. Et ce qui fait que, bah, au bout de 6 mois, j'avais déjà 1 heure de rôder. Puisque tous les mois, bah, je le rôdais de comedy club en comedy club. Et petit à petit, mois après mois, il y a une trame qui s'est faite un peu sur la colère et sur les choses qui me mettent un peu hors de moi. Et c'est là que, en fait, ça a fait sens et que ce spectacle est né. Et après, il a fallu le défendre. Et j'ai fait une première date. Là, du coup, en septembre 2026. Attendez, on est en quelle année, là ? On est en 2026, ouais. Ouais, bon, septembre 2025, on va dire. Et petit à petit, bing, 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 date après date, je me retrouve le 2 juin pour jouer mon spectacle devant 150 personnes.
Et ben justement, on va pouvoir en écouter un extrait de ce spectacle.
Cette soirée, j'ai eu la discussion que toute personne de plus de 25 ans a eu au moins une fois dans sa vie, la discussion des nouveaux propriétaires. Rappelez-moi, est-ce qu'il y a des gens qui sont propriétaires de leur appartement ou de leur logement ici ? Arrêtez ! Ne soyez pas fiers de vous ! Vous nous faites chier là. Eh bien, tu veux que je te passe le numéro de mon courtier?
Mais rien à foutre, je sais pas à quoi ça sert un courtier, moi, y'a la poste.
Alors non, Maxime, ça c'est un coursier. Et en plus, pour moi, c'est le retour des prêts à taux zéro, c'est le moment d'investir. Comme si je comprenais ce que ça voulait dire, le retour des prêts à taux zéro. J'ose même pas ouvrir l'application de ma banque de peur de voir que je suis à découvert, alors. Ah non, 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 si j'ai pas vu, ça compte pas. Des fois, j'ai des mails de la banque qui me disent il y a un document que vous pouvez voir uniquement sur l'application. Tu ne m'auras pas. Pas moi.
Et donc, c'était un votre...
Ça fait bizarre de s'écouter. Hein.
Et comment est-ce que vous est venue l'idée de mettre cette partie dans votre spectacle? Vous vous êtes dit que ça allait parler aux gens, cette situation?
Oui, alors je me suis dit si ça... Déjà, si ça me touche, moi... En fait, il y a un peu un côté chercher l'universel dans des détails. Voilà, moi, je vais bientôt avoir 30 ans et c'est un petit peu ce que les gens de ma génération commencent à vivre. Les premières personnes là, qui commencent à faire des prêts, qui commencent à s'installer en proche banlieue. Et j'essayais de trouver du sens rigolo, enfin comment détourner un peu ces situations-là. Et puis donc il y a ça, mais dans le spectacle il y a plein d'autres choses. Je parle de la dyslexie, je parle aussi beaucoup de ma mère. Ça faudrait en parler à mon psy, pourquoi j'en parle autant. Voilà.
Et est-ce qu'à force de répéter le même spectacle, il y a un moment où des fois vous n'en pouvez plus en fait de vos blagues?
Alors oui et non. En fait, plus je le joue, plus je commence à intégrer de l'improvisation. En fait, c'est un petit peu comme une poésie quand vous êtes au collège, à un moment donné, vous la connaissez par cœur, et vous commencez un peu à faire des mimes avec votre visage, des choses comme ça, parce que ça devient une chanson dans votre tête. Et là, c'est un peu la même chose. Il y a comme des fenêtres dans le spectacle où je sais qu'à ce moment-là, je peux digresser et partir sur de l'absurde, et puis pourquoi pas aussi interagir avec le public. Donc, oui et non, parce que j'aime aussi beaucoup écrire, donc qui sait, peut-être l'année prochaine un autre spectacle.
Et comment est-ce que vous vous êtes senti quand vous avez appris que vous allez présenter votre spectacle pour Festilol?
Je me suis senti partagé aussi, hein. J'étais très content. Et en même temps, je me suis dit, putain, va falloir faire de la com, va falloir remplir cette salle. Donc même là, hein, c'est la dernière. On est dans une semaine, c'est le spectacle. Donc il faut que je répète un peu. Il faut qu'il y ait une petite appréhension, mais c'est de la bonne appréhension. C'est du bon stress.
Et question un peu pour tous les deux, mais quelle est la place de l'humour à Rennes? Est-ce que c'est facile aussi de jouer des spectacles ici?
Lisa, je trouve que à Rennes, on n'a pas énormément de, par exemple pour le stand-up, du coup, de comédie club, de plateau, il y en a beaucoup, on en voit beaucoup, certes, dans des bars, plus dans des formats, on va dire, amateurs en termes de structure. Je ne parle pas des artistes en tant que tels, bien sûr. C'est vrai que Rennes, on est presque les seuls à être sur ce créneau-là du comédie club assumé et du festival d'humour, là, en l'occurrence. Donc tant mieux pour les artistes aussi, pour se produire à Rennes, et on est content d'en faire partie du coup.
Oui, alors si je peux compléter un peu, il y a quand même une scène stand-up à Rennes. On va dire qu'il y a 3-4 associations de stand-up qui vont de bar en bar dans les caves et qui organisent des soirées comedy club. Mais ce qui est intéressant avec le Festilol et la Rennes Comédie, c'est aussi qu'on va toucher un autre public que le public du centre-ville. Quand j'ai joué au Festilol, au Tremplin, du coup, j'ai rencontré les gens qui ont des pavillons et des pressions 25 ans. Voilà.
Oui, c'est sûr que la localisation du théâtre, un petit peu en périphérie, on reste quand même accessible en métro et en transport, mais ça amène aussi un autre public qui a l'air plutôt friand de découvrir aussi le stand-up quand même.
Ouais, tout le monde est curieux. Enfin, c'est pour tout le monde le stand-up.
Et dans le contexte politique actuel en France, où les humoristes sont parfois mal vus, on pense notamment à Guillaume Meurice, qui a été licencié de Radio France. Est-ce que vous avez parfois l'impression de devoir vous censurer par peur des réactions?
Oui et non. En fait, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on s'auto-censure. Mais on s'auto-censure et en même temps, on est libre si on n'a pas envie de se censurer. Moi, je sais que des fois, j'ai fait des blagues qui pouvaient être un petit peu problématiques, entre guillemets. Mais en fait, c'est soi avec soi-même. Est-ce que si ça fait rire les autres, si ça fait rire le public, c'est bon. Voilà.
Et pour rester un petit peu dans ce contexte, pourquoi c'est important pour vous, Lisa Miard, aujourd'hui, d'organiser un festival autour de l'humour ?
Sur la période estivale, dans un premier temps, faire vivre un petit peu encore le stand-up. Nous, c'est vrai qu'on est, on a une saisonnalité au théâtre. L'été, il y a un petit peu moins de monde. Donc, on s'est dit que le contexte du festival était aussi un moyen de continuer à faire vivre le lieu avec le stand-up. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, il fait très chaud. On aurait aimé tous être sous la clim du théâtre. et aussi, dans ce contexte-là, l'objectif était de faire venir des artistes du coin, des humoristes du coin. Donc c'est le cadre du festival, c'est la continuité du Comedy Club pour mettre en avant des talents locaux. On n'est pas obligé d'être à Paris pour faire de l'humour. Mmh. Donc nous, si on peut mettre en avant dans ce contexte des humoristes, on le fait avec grand plaisir.
Oui, complètement. Et c'est important de le dire, il y a la clim dans, la salle de spectacle.
Bien, c'est promis.
Est-ce que justement, vous trouvez que ça se développe un peu, comme vous disiez, on n'a pas besoin d'être à Paris pour faire du stand-up. Est-ce que justement ça se développe de plus en plus l'accès à cette pratique?
Bon, du coup, d'un point de vue théâtre, oui, bien sûr. Quand je suis arrivée, la Comédie de Rennes existe depuis 4 ans, ça fait à peu près 2 ans que j'y suis. Au début du théâtre, il n'y avait pas vraiment de stand-up, pourtant le lieu s'y prête très bien. Aujourd'hui, on le développe énormément aussi parce qu'on se rend compte que les humoristes sortent de Paris, partent en tournée, même si ce n'est pas pour remplir des salles comme le Liberté ou comme le Ponant à passer. Oui, on a une plus petite capacité, mais tout le monde a son public, tout le monde a son degré de notoriété. Et du coup, on voit que ça se développe beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup d'humoristes aujourd'hui aussi, par rapport à, j'ai pas les tailles, mes grandes têtes, mais il y a quelques années. Donc après, je sais pas, d'un point de vue humoriste, comment tu vois l'évolution, toi ?
Moi, je la vois positivement. On peut facilement jouer tous les soirs à Rennes. Et on va dire, si on descend à Nantes, c'est le cas aussi. À Brest, vous avez des comédie clubs qui s'ouvrent. Et c'est intéressant aussi, vous allez avoir des comédie clubs éphémères en hyper-ruralité. Sur la période juillet-août, vous avez des humoristes qui partent en van et qui créent des comédie clubs, éphémères, itinérants. Donc c'est intéressant, c'est aussi apporter une certaine culture un peu partout, que c'est pas juste le centre-ville.
Et vous avez des projets pour la suite
personnel?
Ouais, enfin par rapport au stand-up.
Par rapport au stand-up, disons le 2 juin d'abord. Jouer ce spectacle à la Comédie de Rennes. Après, je sais que je vais jouer encore un petit peu de manière ponctuelle dans les comédie clubs rennais et aux alentours. Pendant un an, je vais faire une petite pause parce que je pars aux Antilles. Je n'ai pas prévu de faire du stand-up là-bas. J'ai prévu de m'amuser un peu. Et à mon retour, repartir, soit exploiter encore un petit peu ce spectacle ou en commencer un nouveau. On verra. Ou peut-être une émission ici, qui sait.
Ça serait bien. Et pour finir, si vous deviez convaincre les auditrices qui nous écoutent de venir à Festilol, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Venez, venez, c'est incroyable. Il va y avoir la clim. En première partie, il va y avoir Sofian, qui est un des douaniers de l'humour à Rennes. Et ensuite, il y a 1h10 de mon spectacle où... comment je peux vous dire, c'est foufou, c'est zinzin, c'est foufou zinzin, et il y a un grand concours au début du spectacle. On va tirer au sort une personne du public qui aura le droit d'avoir un golden ticket. Ce golden ticket permettra à la personne d'être au premier rang avec une tchatchouka, un Capri Sun et une boîte de schtroumpf, un sachet de schtroumpf. C'est pas mal,
ça vaut le coup, je trouve. Et vous, Lisa, qu'est-ce que vous diriez ?
Eh ben, je pense que la promesse a l'air plutôt sympa déjà. La chouchouka me donne très envie. Non, au-delà de ça, on a une ambiance assez conviviale, familiale. C'est à taille humaine. Qu'il fasse 35 degrés ou 20, la température sera agréable également. et on va passer une super soirée tous ensemble. Ça va être génial.
Merci Lisa Miard et Maxime Guéot
d'être venus. Et un tarif étudiant. Très important ça, on est sur une radio étudiante.
Et oui.
Il y a un tarif étudiant, jeune étudiant qui nous écoute. C'est, Lisa,
10 euros pour le tarif étudiant.
Voilà, c'est pas cher.
Prenez donc bonne note. Donc merci Lisa et Maxime d'être venus dans le studio de CELAB. Donc on rappelle, Festilol, c'est le 2 juin, le 21 juillet et le 4 août à la Comédie de Rennes. Et Maxime Guéot jouera son spectacle Hors de moi, mardi à 21h. Si vous êtes intéressé, pensez bien à réserver vos places.
Merci.
6h avant minuit.
Elle nous avait déjà parlé dissolution des groupes ultra dans sa chronique du 26 mars 2025. On retrouve Marilyn pour un nouvel épisode de Sur la ligne de touche, la chronique qui s'arrête là où les matchs ne figurent plus au classement, sur ce que le sport dit du monde et ce que le monde fait au sport. Aujourd'hui, elle décrypte pour vous l'actualité autour des mouvements de supporters, hooligans ou ultra, souvent confondus, ils ont pourtant une histoire différente. Des organisations et des dynamiques différentes entre apolitisme de façade, résistance antifasciste et répression étatique. 3 minutes pour comprendre ce qui se joue dans nos stades et ce qui se joue à travers eux.
Entre apolitisme de façade, résistance antifasciste et répression étatique, que se passe-t-il en France dans le mouvement des supporters et supportrices? Que reste-t-il de l'esprit ultra? Bienvenue sur la ligne de touche, la chronique au-delà des scores qui s'arrête sur ce que le sport dit du monde et sur ce que le monde fait au sport. Aujourd'hui, encore une focale sur le football, mais cette fois-ci sur les acteurs en tribune. Avant de parler des événements récents concernant les hooligans de Nice, il faut dissiper toute confusion. Oui, j'ai bien dit hooligan et non ultra. Parce que dans le débat public, les médias prennent plaisir à mélanger les deux. Pourquoi ? J'ai ma petite idée, mais je vous laisserai faire la vôtre après ce point historique. Déjà, il faut savoir que le mouvement ultra, il est né en Italie, dans les années 60-70, selon les sources, dans un climat politique et social tendu. D'après le blog Mini Ultra Livre Sonore, je cite, « Les premiers groupes, tels que les Fedayin, Brigate Rossonere et Tupamaros, mon italien est rouillé, ils s'organisent autour des clubs majeurs et ils implantent des rituels spécifiques dans les stades, tifos, chants, banderoles. Il faut aussi noter que l'influence des mouvements ouvriers et contestataires se fait sentir, forgeant l'identité des ultras, car ils privilégient la passion et l'organisation collective plutôt que la violence pure. Ouais, la violence pure, c'est ce qu'il y a du côté des hooligans. Contrairement aux ultras qui sont attachés à leur club, les hooligans, eux, se focalisent majoritairement autour de la violence. D'accord. Donc là, je vais citer le sociologue spécialiste des supporters de football, Ludovic Lestrelin, qui dit que le hooliganisme englobe un ensemble de phénomènes qui ont pour point commun de se dérouler en lien avec un événement sportif, en particulier les matchs de football, et qui touche à des formes de violence physique ou verbale, mais aussi à des actes de délinquance. Donc c'est important de faire la distinction entre les deux. Donc en France, le thème il s'est répandu suite au drame de Uzel. Donc il y a eu 39 morts et c'est dû en fait au départ des violences des supporters anglais qui s'appelaient à l'époque des hooligans. Et donc ce terme, il a été associé aux violences des supporters. Et en France du coup? Alors en France, donc Street Press et l'équipe se sont associés pour réaliser une cartographie des groupes hooligans. Ils ont totalisé 19 groupes en activité pour 16 clubs différents qui vont de la première division à la cinquième. Donc la première division c'est la Ligue 1 et la cinquième c'est le National 3. Ce qui me pousse à vous parler de ça aujourd'hui et de clarifier la distinction entre ultra et hooligan, c'est ce qui s'est passé à la veille de la finale de Coupe de France remportée par le RC Lens contre l'OGC Nice. En effet, il y a eu une rixe entre guillemets entre supporters. C'est ce que les médias ont dit. Street Press a enquêté et a révélé que ce n'était pas une rixe de supporters, mais bien une descente d'une milice d'extrême droite affiliée au club de foot de Nice. Ils ont crié « On va casser du noir, on va casser de l'arabe » Donc on voit bien que c'était motivé par la haine raciale et ils arboraient certains des symboles nazis. Des signaux que l'on peut voir aussi arborer au sein des tribunes lyonnaises. D'ailleurs, elles avaient rendu hommage à Quentin de Ranque, le militant nationaliste. La question reste tout entière. Quelle tribune voulons-nous en France ? Parce que dans les gradins comme dans la rue, l'apolitisme n'existe pas, car il y a toujours un choix. Et ce choix a un prix. Les interdictions de stade, les punitions collectives, des tribunes muselées, des dissolutions de groupes, ou encore la gentrification des stades qui amène à l'exclusion des classes populaires. Est-ce que les groupes se revendiquant du mouvement ultra vont honorer cette mémoire et cette histoire ? Nous le saurons bientôt. À l'approche des présidentielles, ils devront forcément prendre parole.
En écho à cette chronique, on peut mentionner le déchaînement de violence qui a eu lieu dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 mai près du canal Saint-Martin à Paris. 65 personnes ont été interpellées, il y a eu 6 blessés, dont un grave. Merci Marilyn. Le répondeur clignote, on a un message, on l'écoute.
Ah, le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
La radio sauvage.
Coucou, eh ben, c'était pour dire que j'ai passé un bon week-end au festival Art Rock à Saint-Brieuc. Bien sûr, tout en allant voir les 10 camarades de la radio Syllab et puis bien sûr de Radioactive, de Fréquence Ultime et puis de Radio Crazy Place. Bah oui, si, je pense que peut-être tout le monde a écouté l'émission qu'ils viennent hier soir, et bah oui, c'est ma première fois devant le micro à la radio Syllab, et franchement c'était super, et puis bah Roman et Pierre sont vraiment des anges avec moi, et puis bah bien sûr bah l'émission on s'est bien arrivé, donc voilà. Et ben pour vous dire, ben aussi, ben j'étais passé à Radioactive lundi soir parce que voilà, ben j'étais resté sur Saint-Brieuc jusqu'à lundi soir et en allant rentrer chez moi vers Saint-Malo. Voilà. Allez, je fais des gros bisous à Timothée, à Héloïse et puis à tout le monde de la Radio Syllab. Et puis bah là pour l'instant, je vais me reposer un peu parce que c'est vrai que vendredi, je vais être pour la soirée de clôture de la saison 4 de Sortir les briquets sur au Grand Vuit. Donc voilà, et ben en plein préparation, en plein repos. Donc pas envie de bouger aujourd'hui. Donc voilà. Allez, gros bisous à vous, je vous embrasse et puis ben à demain ou peut-être après-demain. Allez, bisous.
La bise, Benoît. Faites comme Benoît, laissez-nous un message vocal au 02 30 96 25 35. Maxime, si jamais tu veux nous laisser une petite blague sur le répondeur de temps en temps, n'hésite pas, on diffuse ça à la fin de l'émission.
Ça va te faire court.
Merci. 02 30 96 25 35. Avant qu'on se quitte, je vous rappelle qu'il y a un jeu concours en ligne. C'est jusqu'à lundi que vous pouvez jouer. Syllab vous propose de gagner une place ou alors une affiche. C'est au tirage au sort pour la première édition de Château Bruyante. C'est un festival qui se déroulera au milieu des ruines du château d'Edé Bazouge le samedi 6 juin prochain. Ça a lieu de 15h à 2h du matin. Des concerts, de la pop, de l'électro, du rock garage, un karaoké, un thé dansant décalé. Il y a aussi des activités pour les enfants l'après-midi. Donc n'hésitez pas à jouer. Et donc pour gagner, vous aurez besoin d'un mot de passe. Léonore, le mot de passe, s'il te plaît.
Je le fais, je le mime aux invités comme ça.
Bien sûr, mime-le à la radio, c'est une bonne idée.
C'est blanc. On peut se déguiser avec un drap.
C'est pas du tout
un
mime.
C'est une charade.
C'est un mime audio.
Okay. Un fantôme.
Oui, le mot de passe, c'est fantôme. Bravo, merci. Pour jouer et pour gagner, rendez-vous sur c-lab.fr. Ce soir, elle est passée de la rédaction à la technique. C'était Anna aux manettes de la régie. Merci à toi. À lundi dans 6h avant minuit. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, demain, 18h, émission spéciale en direct du 360 avec Lubu en invité Odonella et les collégiens collégiennes de Rosa Parks, du collège Rosa Parks à Villejean, qui ont fait une résidence avec cette artiste rennaise. Donc ne manquez pas ça sur le 88.4 FM à 18h. Et sinon, pour la quotidienne normal, c'est lundi, 18h. Merci à vous.
Bisous.
Merci.
La radio sauvage.
Et le reptile.
Et 6h exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit. 18h, 19h sur Syllabe,
la radio sauvage.